vais vous raconter... Ouais, ouais, attendez, le petit chaperon rouge. Hein.
Oh non,
on la connaît par cœur.
Attendez, vous connaissez le petit chaperon rouge?
Exact.
Tout juste, Auguste.
Oui, bah là, il s'agit du petit chaperon rouge 2, le retour.
Oui, bien sûr, mais bon, là, de toute façon, on est crevés, alors.
Ah oui, puis c'est l'heure de dormir, hein, il est tard.
Ça peut pas faire de mal.
Papa, il est tard.
Un peu, c'est qu'on est à bout de nerfs.
À la limite de la rupture.
Oh ben alors, et mon petit chaperon rouge 2, le retour?
T'as qu'à attendre son tour ici, avec Mère Grande 2.
En croquant des galettes 2.
D'accord, hein. Et la grande méchante fessée? Hein? Eh où la grande méchante fessée?
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Les trois évadés. John et son frère, Clarence Anglin. Et l'autre gars, Frank Morris. J'étais sur leurs traces, et maintenant, je les ai face à moi. Tout s'embrouille dans ma tête. Où je suis là, c'est quoi? Une hallucination? Un genre de rêve éveillé? Faut que je me reprenne. Retrouve mes esprits, et vite! Il y a forcément une explication. Un truc rationnel. Je l'ai. En vérité, j'avais raison depuis le début. Les évadés d'Alcatraz sont bien vivants. Oui, voilà. Ils vivent depuis 1962 sur une autre île de la baie de San Francisco. Mais qu'est-ce que ces types, qui doivent être des vieillards s'ils vivent encore, viennent faire là, à Alcatraz, 51 ans plus tard? Et en pleine nuit. Ça n'a pas de sens. Sauf s'ils sont revenus chercher un truc qu'ils avaient oublié à l'époque. Un trésor? Un souvenir? Ou alors, ça y est, je sais. Une théorie délirante s'échafaude vitesse grand V dans mon cerveau agité. Voilà l'histoire. Les évadés s'en sortent, mais restent sur l'île où ils se cachent. Ils creusent des galeries dans le sable, construisent des cabanes de fortune et parviennent à subsister en se nourrissant des restes des touristes la nuit. Sandwich oublié, poisson rejeté par la mer. Oui, ça se tient, c'est parfaitement logique. Comme ça, c'est pas des fantômes. Hop, réglé. Pitié. Ne regardez pas dans ma direction. Pitié. Ne regardez pas dans ma direction. J'ai dû penser trop fort. L'un d'eux s'approche et sa voix me secoue les tripes.
Les mecs, y a un môme là. Nom de Dieu, Franck, t'as réussi à picoler le soir de l'évasion. Non mais je rêve. John, je t'assure, y a un môme. Un vrai môme. Venez voir. Ramène ton frangin, tiens.
Et là, l'homme perce le brouillard pour venir se planter devant moi. Je lève la tête, c'est un grand type, jeune. Je le reconnais tout de suite à sa tête sérieuse de prof de maths. C'est Frank Morris. Mais le Frank Morris de l'époque. Cette fois, c'est sûr. J'ai basculé en 1962 et je ne sais pas pourquoi.
Récits de fantômes, voyages dans le temps, règlement de compte avec son prof de maths, telle est l'histoire captivante inventée par Séverine Vidal dans son roman « La drôle d'évasion » publié en 2014 aux éditions Sarbacane. C'est avec cet extrait qu'une jeune fille de 10 ans a remporté en juin dernier la finale de la 3e édition du concours des petits champions de la lecture, organisé par le Syndicat national de l'édition et la Comédie française. Pour cette 4e édition, les petits champions seront accompagnés par une nouvelle marraine, magnifique comédienne et future pensionnaire de la Comédie française, Dominique Blanc. Ce concours est ouvert à tous les élèves de CM2, vous pouvez encore vous y inscrire, individuellement ou par classe, jusqu'au 4 janvier 2016 sur le site internet www.lespetitschampionsdelalecture.fr. Ce soir, pour cette émission spéciale consacrée à la littérature jeunesse, j'ai le plaisir d'accueillir notre championne de l'édition 2015, J'ai nommé Ève. Bonsoir, Ève.
Bonsoir.
Tu habites à Paris, tu es en classe de 6e au collège Stanislas dans le 6e arrondissement. Ensemble, nous allons feuilleter quelques grands classiques de la littérature anglo-saxonne, tels que Le Livre de la Jungle de Rudyard Kipling ou Tom Sawyer de Mark Twain. Nous découvrirons aussi certains personnages des contes pour enfants, comme La Belle au bois dormant ou Le Petit Chaperon Rouge, qui reprennent vie sous la plume de metteurs en scène actuels. Commençons par les aventures d'une célèbre petite fille qui a vu le jour au siècle dernier. Nous célébrons cette année le 150e anniversaire de ce livre, devenu le classique par excellence. Il s'agit d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, paru en 1865.
Mais enfin, Dina, ce n'est qu'un lapin avec une veste et une montre.
Oh, fermez, moustache, je suis en retard, en retard, en retard.
Dans un jardin, Alice s'ennuie auprès de sa sœur qui lit un livre sans images. Soudain, elle aperçoit un drôle de lapin blanc qui l'entraîne dans un pays imaginaire où règne une terrifiante reine.
C'est très curieux. Ce lapin est en retard, pourquoi faire ? Hé, monsieur !
En retard, en retard. J'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de... Au revoir, je suis en retard, en retard.
En tête du cortège s'avançaient 10 soldats portant des bâtons. Ils étaient comme les 3 jardiniers qu'Alice venait de rencontrer, des cartes à jouer, plates et rectangulaires, avec la tête en haut et aux angles des bras et des jambes. Puis venaient 10 courtisans couverts de diamants. Ils marchaient 2 par 2 comme des soldats. Ensuite, les enfants royaux. Ils étaient 10 qui bondissaient joyeusement en se tenant par la main 2 par 2. Ils portaient sur la poitrine un bijou en forme de cœur. Parmi les invités, des rois et des reines pour la plupart, Alice reconnut le lapin blanc. Il parlait d'une façon nerveuse et précipitée et souriait à tout ce que les autres disaient. Il passa près d'elle sans la voir. Puis venait le valet de cœur, portant la couronne royale sur un coussin de velours écarlate, et le roi et la reine fermaient la marche. Alice se demanda si elle devait se jeter à plat ventre comme les 3 jardiniers. Était-ce obligatoire devant une procession ?
Mais à quoi serviraient les processions si tout le monde restait la face contre terre? Il n'y aurait personne pour les regarder.
Elle resta donc debout et attendit. Quand la procession passa près d'elle, tous s'arrêtèrent pour la regarder. La reine dit d'un ton sévère « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Elle s'adressait au valet de cœur, mais celui-ci salua et sourit pour toute réponse. « Idiot !» dit la reine en secouant la tête avec colère. Et se tournant vers Alice, « Quel est votre nom, enfant ?»«
Mon nom est Alice, votre majesté. »
dit Alice très poliment. Et elle pensait,
« Ils ne sont qu'un paquet de cartes, après tout. Je n'ai pas besoin d'avoir peur. »
« Et qui sont ceux-ci ? » dit la reine en désignant du doigt les 3 jardiniers toujours aplatis sous le rosier. Elle ne les voyait que de dos, vous comprenez. Et comme les dos des cartes sont tous semblables, elle ne savait pas si elle avait affaire à des jardiniers, à des soldats, à des courtisans ou à ses propres enfants.
« Comment le saurais-je ? Ce n'est pas mon affaire. »
dit Alice étonnée de son propre courage. La reine devint pourpre de colère et après lui avoir lancé un regard féroce, elle hurla « Qu'on lui coupe la tête ! Qu'on lui coupe la tête !»
« Quelle bêtise !»
dit Alice d'un ton décidé. Et la reine se tut. Le roi lui mit la main sur le bras et dit timidement « Ma chère, laissez, ce n'est qu'une enfant. » La reine s'éloigna avec rage. Tous se remirent en route à sa suite. Et Alice suivit la procession en se demandant ce qui allait se passer.
Un jour, mon prince viendra. Un jour, il me dira ces mots d'amour si troublants et tendres que j'aurai tant plaisir à entendre. Qu'il vienne, je l'attends, craintive et cœur battant, dans ses bras enchanté deviendra réalité.
Voici Voici une version moderne d'un conte de Charles Perrault, vieux de plus de 300 ans, La Belle au bois dormant. Cette réécriture contemporaine est l'œuvre d'un auteur et metteur en scène passionné par les grands récits mythiques. Il s'agit de Jean-Michel Rabeu, à qui l'on doit déjà les adaptations de Peau d'âne et de Barbe bleue. Écoutons un extrait de son nouveau spectacle, La Belle au bois dormant, actuellement en tournée. Après avoir embrassé la belle, le prince est tombé dans les pommes. À son tour, la belle l'embrasse pour le réanimer. Nous sommes scène 7, le voici qui reprend ses esprits.
Vous en avez mis du temps.
Du temps.
C'est un débile. Vous êtes qui ?
Qui ?
Il est débile comme prince. Vous êtes prince ?
Prince, oui. Oui, prince des quartiers nord. Sire de Miroménil, chevalier de Créteil, le Blanc-Ménil, marquis de Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, Saint-Denis, Saint-Palais, Saint-Fargeau. Mais on m'appelle Jojo.
Moi, je suis princesse de la mort.
T'es ma vie.
C'est beaucoup.
Je rêve de toi depuis que je rêve.
Moi, je rêve depuis 100 ans. J'en ai marre.
C'est fini, le rêve. Je t'ai trouvé pour de bon.
Vous avez trouvé une bête au fond des bois.
J'ai trouvé une belle qui m'a ressuscité.
Vous aussi, vous dormiez ?
Je mourais de tristesse.
Je connais ça, la tristesse. Comment m'avez-vous trouvé ?
Un soir, au fond d'un café, au bord d'un quai, un vieil homme m'a dit « Quelque part, il existe un bois obscurci d'épines où une belle dort depuis 100 ans. »
C'était moi.
C'était toi. Il m'a dit « Si tu l'aimes, elle ressuscitera. »
Vous l'avez cru ?
Oui, puisque c'était vrai.
Et alors ?
Alors j'ai quitté mes parents, j'ai quitté mes quartiers, j'ai quitté mes royaumes.
Pour moi ?
Pour toi.
Waouh, la classe !
J'ai marché pendant 100 jours. J'ai couru d'une forêt à l'autre. J'ai fouillé le fond de tous les bois.
Et alors ?
J'ai recommencé. 100 fois.
Waouh ! 100 fois, 100 jours. Ça fait combien ?
Et le 100e jour de la 100e fois, quand je brûlais des ronces pour atteindre le cœur du dernier bois, je t'ai vu sous ton linceul de fleurs.
Et alors ?
Je me suis approché.
Et alors ?
J'ai vu ton visage. J'ai vu...
Vous avez vu mes lèvres vermillonnes ?
Vos lèvres... Et ils s'embrassent. L'amour le rend idiot, mais pas maladroit. Stop ! Voilà, c'est fait. Ils s'aiment, laissons-les s'aimer, ils vont s'aimer pendant 10 ans, ils auront une fille qu'ils appellent Aurore, parce qu'elle est née à l'aurore, un garçon qu'ils appellent Crépuscule, parce qu'il est né, oui, et au crépuscule. Pendant 10 ans, ils vivent heureux, cachés au fond de la forêt magique, mais le prince ne veut rien dire au roi et à la reine, ses parents, rien du tout, parce qu'il craint sa mère plus que tout. Son père est bonhomme, mais sa mère est ogresse, et il le sait. Le prince. Il sait que si elle apprenait son amour, elle opérerait le pire des pires. Or, un jour, elle l'apprend. Restons dans l'univers des contes de Perrault. Voici une réécriture du Petit Chaperon Rouge par un autre grand metteur en scène, Joël Pommerin.
Le Petit Chaperon Rouge trottinait dans les grands bois quand soudain une ombre bouge. Un loup, un gros loup à l'œil sournois, qui se dit en voyant la gamine, j'ai besoin de vitamines, je vais faire un bon petit repas froid.
Tire, tire, tire la chevillette, tire et la topinette chera.
Fidèle à sa pratique d'écriture de plateau, l'auteur a rédigé son texte au fur et à mesure des répétitions du spectacle en 2005. Depuis, il a proposé d'autres adaptations de contes, Pinocchio, Cendrillon. Tout le monde connaît le dénouement, heureux ou malheureux, du Chaperon Rouge selon les versions. Dans l'extrait suivant, nous sommes presque à la fin de l'histoire. La petite fille est arrivée dans la maison de sa grand-mère. Elle ne sait pas encore que la grand-mère n'est autre que le loup, déguisé et caché sous les draps. Mais on dirait qu'elle se doute de quelque chose, au grand désespoir du loup.
Je voulais te dire que ça ne sent pas non plus très bon chez toi, mémé. Ça sent un peu le renfermé. Tu devrais ouvrir un peu plus souvent ta porte quand il fait beau dehors. L'air est vraiment meilleur à l'extérieur.
Oui, c'est vrai, mais viens. J'ai hâte que tu m'embrasses. Nous sommes tellement tranquilles ici, toutes les deux.
Oui, c'est vrai, Mais je vais poser mon flan d'abord. C'est un flan que j'ai fait pour toi, tu sais, parce que ma mère me l'a demandé.
Un bon ?
Oui, je m'assois un peu quand même sur le tabouret, là.
On dirait que tu n'as pas envie de t'approcher de ta grand-mère.
Oh non ! C'est seulement que je suis un peu fatiguée, alors je fais seulement une petite pause à cause de mes jambes qui ont trop marché dehors pour venir jusqu'ici.
Tu pourrais te reposer les jambes en t'asseyant là, sur le lit, à côté de moi.
C'est ma mère qui m'a demandé de faire ce flan pour toi. J'espère que tu vas en manger et que tu vas l'aimer. Ma mère ne croyait pas que je serais capable de faire toute seule un flan. Elle me croit encore vraiment petite. Et finalement, je crois qu'elle ne me croit pas encore capable d'avoir des responsabilités dans la vie. Les mères, c'est toujours comme ça, non ? C'est pénible.
Viens plus près de moi.
Ma mère et moi, on s'entend bien, mais des fois, c'est vrai, j'ai un petit peu du mal à la supporter. Elle s'inquiète de tout. Alors, elle en devient vraiment pénible. Elle me prend pour une enfant.
Nous, les mamans, on s'inquiète beaucoup, oui, c'est vrai. Viens plus près de moi.
Quand elle était petite fille aussi, et que tu étais déjà sa maman, toi aussi tu t'inquiétais quand elle partait de la maison ?
Oui, mais viens.
Est-ce que tu veux que je vienne m'asseoir sur le lit, là, à côté de toi ?
Oui, parce que sinon je crois que je vais m'endormir tellement je suis fatiguée et je ne t'aurais pas vraiment vue tellement tu es loin de moi, on dirait.
Alors oui, j'arrive.
Elle se lève, mais ne bouge pas.
Mais qu'est-ce que tu fais ?
Tu as une drôle de voix, mémé, quand tu t'énerves.
Ah, oui, je sais, je faisais peur à ta maman quand elle était une petite fille comme toi.
Moi aussi, parfois, ma maman me fait peur.
Allez, viens.
J'aime ma maman, et je suis triste quand je ne la vois pas.
Mais viens donc.
Oui, je viens. Est-ce que tu veux que je t'amène un peu de flan ?
Non, juste toi.
On dirait que tu n'es pas la même mémé que je connais.
On change dans la vie, viens.
Moi aussi, j'ai changé.
Oui, tu es devenue bien grande maintenant. Viens.
C'est que ce loup qui devait venir n'est toujours pas là. Il m'avait pourtant bien dit qu'il viendrait en passant par l'autre chemin.
Mais laisse donc ce loup où il est, s'il te plaît.
Ça me tracasse quand même un peu.
Viens.
Oui, je viens.
Moi, je ne peux plus me lever.
Je n'aime pas te voir aussi fatiguée, mémé, et aussi vieille.
On devient tous vieux un jour.
Non, moi, je deviendrai seulement une femme, jeune et surtout belle, et c'est tout.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Continuons avec les péripéties d'un garçon qui n'a peur de rien. Voici Tom Sawyer, le célèbre roman de Mark Twain, publié en 1876 dans la nouvelle traduction de Bernard Höpfner aux éditions Tristram.
Notre Père qui êtes aux cieux, nous vous remercions pour notre pain quotidien. Faites en sorte que Tom cesse de tromper son monde en permanence et que mon petit Sid arrête de manger des friandises parce qu'ils n'y arriveront pas tout seuls. Amen.
Tu manges comme un cochon. Tu sais que c'est mauvais pour le cœur de trop manger.
C'est toi qui me dis ça?
Non, c'est Luc, chapitre 21, verset 34.
Je te félicite, Sid.
J'ai déjà un bon point jaune et trois rouges pour remporter une Bible. Et toi, t'en as combien? Je parie que tu connais pas un seul psaume par cœur, c'est pas vrai?
T'es sûr? Tu veux que je t'en récite un?
Vas-y.
Tu peux te le mettre là où ça pue, verset 1.
Orphelin, élevé par sa tante Polly, Tom est un garçon têtu et courageux qui aime faire l'école buissonnière. Un matin, il arrive en retard à l'école. Poussant la porte de la salle de classe, il va bientôt faire face à son professeur, mais surtout, il va faire une rencontre très importante. Extrait du chapitre 6.
Thomas Sawyer.
Tom savait que lorsque son nom était prononcé en entier, ça ne présageait rien de bon. Monsieur,
viens ici. Alors, monsieur, en retard comme d'habitude.
Tom s'apprêtait à trouver refuge dans un mensonge lorsqu'il aperçut deux longues tresses de cheveux blonds dans un dos qu'il reconnut grâce à la sympathie électrique de l'amour. Et près de cette silhouette se trouvait la seule place vacante dans la moitié de l'école réservée aux filles. Il lança immédiatement « Je me suis arrêté pour parler à Huckleberry Finn ».
Le pouls du maître s'immobilisa et il resta bouche bée. Le bourdonnement cessa dans la salle d'école. Les écoliers pensaient que ce garçon téméraire avait perdu l'esprit. Le maître demanda « Tu as fait quoi ?»«
Me suis arrêté pour parler à Huckleberry Finn. »
Il n'y avait pas d'erreur possible sur ces mots.
« Thomas Sawyer, c'est là une des confessions les plus étonnantes que j'ai jamais entendues. Une simple férule ne suffit pas après une telle offense. Enlève ta veste !»
Le bras du maître s'activa jusqu'à ce qu'il soit fatigué et que le paquet de verges ait visiblement diminué. L'ordre suivit alors.
« Maintenant, mon bonhomme, va t'asseoir avec les filles et que ceci te serve d'avertissement. »
Le fou rire qui parcourut la classe parut abattre le garçon. Mais en réalité, cette attitude était due surtout au respect et à l'adoration qu'il ressentait pour son idole inconnue et par le plaisir terrible que lui procurait sa bonne fortune. Il s'assit à l'extrémité du banc en pin et la fille s'éloigna le plus possible en secouant la tête. Les coups de coude, les clins d'œil et les chuchotements fusaient dans la salle. Mais Tom restait assis là, sans bouger. Les bras posés sur le long et bas pupitre devant lui, apparemment absorbé par son livre. Peu à peu, il cessa d'être le centre de l'attention et le murmure habituel de la classe remplit de nouveau l'air tranquille. Au bout d'un moment, le garçon commença à jeter des coups d'œil furtifs à la fille. Elle s'en aperçut, fit une moue dans sa direction et lui montra sa nuque pendant au moins une minute. Quand elle se retourna précautionneusement vers lui, une pêche était posée devant elle. Elle la repoussa. Tom la remit doucement en place. Elle la repoussa une fois de plus, mais avec un peu moins d'animosité. Tom la remit patiemment en place une fois de plus. Alors, elle la laissa là. Tom gribouilla sur son ardoise. « Tu peux la garder, tu sais, j'en ai d'autres. » La fille jeta un coup d'œil à ces mots, mais sans faire aucun signe. Alors le garçon se mit à dessiner quelque chose sur l'ardoise en cachant ce qu'il faisait avec sa main gauche. Pendant quelque temps, la fille refusa de s'en apercevoir, mais la curiosité humaine ne tarda pas à se manifester par des signes à peine perceptibles. Le garçon poursuivait son travail apparemment sans rien remarquer. La fille fit une tentative d'un genre ambigu pour regarder le dessin, mais le garçon n'indiqua en rien qu'il s'en rendait compte. Pour finir, elle capitula et chuchota d'une voix hésitante.
« Laisse-moi voir. »
Tom révéla, en partie, une horrible caricature de maison avec deux pignons aux extrémités et un tire-bouchon de fumée s'échappant de la cheminée. Alors l'intérêt de la fille s'attacha de plus en plus au dessin et elle oublia tout le reste. Lorsqu'il eut terminé, elle l'examina un instant puis chuchota.
« C'est joli.
Maintenant, dessine un homme.
L'artiste érigea devant la maison un homme qui ressemblait à un d'Éric. Il aurait pu enjamber la maison, mais la fille n'avait pas l'esprit très critique. Le monstre lui plaisait et elle chuchota.
C'est un bel homme. J'aimerais tant savoir dessiner.
C'est facile, chuchota Tom. Je t'apprendrai.
Oh, c'est vrai. Quand ?
À midi. Tu rentres déjeuner à midi ?
Tu restes aussi.
Bon, top là. Comment tu t'appelles ?
Betty Thatcher. Et toi ? Oh, je sais. Thomas Sawyer.
Ça, c'est le nom qu'on me donne pour me punir. Je suis Tom quand je suis gentil. Tu m'appelles Tom, hein ?
Oui.
Tom commença à gribouiller quelque chose sur son ardoise en cachant les mots à la fille. Mais cette fois-ci, elle ne se fit pas prier. Elle demanda à voir. Tom lui dit « C'est rien. »
« Mais si. »
« Non, c'est rien du tout. Faut pas que tu le vois. »
« Mais si. C'est vrai que je veux voir. Laisse-moi voir. »
« Tu raconteras ?»«
Non, je ne dirai rien. Sûr et double sûr que je dirai rien. »
« Tu diras rien à personne. Jamais tant que tu vivras. » Oh, mais je sais qu'il faut pas que tu vois.
Maintenant, puisque tu me traites comme ça, je veux voir.
Et elle posa une main menue sur celle de Tom et il y eut une petite lutte. Tom fit semblant de se défendre sérieusement, mais laissa sa main glisser progressivement jusqu'à ce que ses mots soient révélés. Je t'aime.
Oh! Méchant garçon.
Et elle envoya un bon coup sur sa main, mais elle avait rougi et avait quand même l'air contente. À ce moment précis, le garçon sentit quelque chose pincer lentement et décisivement son oreille et se sentit en même temps progressivement soulevé. De cette manière, il fut transporté à travers la salle et posé sur son propre siège, sous le feu roulant des fous rires de toute la classe. Puis le maître resta devant lui pendant quelques terribles instants et finit par rejoindre son trône sans dire un mot. Cependant, si l'oreille de Tom le brûlait, son cœur jubilait.
Look for the band of sassanies, the simple band of sassanies. Forget about your worries and your strife. I mean the band of sassanies, a mother nature's recipes that bring the band of sassanies. Are buzzing in the tree to make some honey just for me. When you look under the rocks and plants, take a glance at the fancy ants and maybe try a few.
Thanks, Blue.
The bare necessities of life will come to you. They'll come to you.
18 ans plus tard, de l'autre côté de l'Atlantique, en Angleterre, un homme publie l'un des plus beaux contes sur l'enfance, l'histoire d'un petit garçon élevé en pleine nature par des loups. Je veux bien sûr parler du Livre de la jungle de Rudyard Kipling.
The bare necessities of life will come to you. They'll come to you.
They'll come to me.
They'll come to you.
They'll come to me.
They'll come to you.
They'll come to you.
Oh yeah.
Ce garçon s'appelle Mowgli et il est surnommé le petit homme par tous les animaux. Il a été recueilli par Père Loup quand il n'était encore qu'un nourrisson. Gentil, débrouillard, ayant découvert le pouvoir de la fleur rouge, le feu, il est initié à la loi de la jungle par l'ours Balou et la panthère Bagheera. Mais le petit homme doit être accepté par le clan pour pouvoir chasser avec les autres loups. Le conseil se réunit. Akela, le vieux loup, défend Mowgli. Mais Shere Khan, le tigre, veut le tuer. Voici un extrait du chapitre 1er, Les frères de Mowgli. Peuple libre, le petit homme fut ma proie dès le commencement, dit Shere Khan. Donnez-le-moi. J'en ai assez de cette dérision d'homme loup. Il a troublé la jungle pendant 10 saisons. Donnez-moi le petit homme, ou bien je chasserai toujours par ici et ne vous laisserai pas un os. C'est un homme. Un enfant d'homme, et dans la moelle de mes os, je le hais. Alors plus de la moitié du clan hurla. Un homme? Un homme, qu'est-ce qu'un homme peut avoir à faire avec nous? Qu'il s'en aille avec ses pareils? C'est cela, pour tourner contre nous tout le peuple des villages, vociféra Shere Khan. Non, non, donnez-le-moi. C'est un homme et nul de nous ne peut le fixer dans les yeux. Akela dressa la tête et dit « Il a partagé notre curé. Il a dormi avec nous. Il a rabattu le gibier pour nous. Il n'a pas enfreint un seul mot de la loi de la jungle. Nul petit homme ne doit courir avec le peuple de la jungle, rugit Shere Khan. Donnez-le-moi. » « Il est notre frère en tout, sauf par le sang, poursuivit Akela. Et vous le tueriez ici ? En vérité, j'ai vécu trop longtemps. Quelques-uns d'entre vous sont des mangeurs de bétail, et j'ai entendu dire que d'autres, suivant les leçons de Shere Khan, vont par la nuit noire enlever des enfants au seuil des villageois. Donc je sais que vous êtes lâches. Et c'est à des lâches que je parle. » Il est certain que je dois mourir et ma vie ne vaut plus grand-chose. Autrement, je l'offrirais pour celle du petit homme. Mais afin de sauver l'honneur du clan, presque rien apparemment, qu'à force de vivre sans chef vous avez oublié, je m'engage, si vous laissez le petit homme retourner chez les siens, à ne pas montrer une dent lorsque le moment sera venu pour moi de mourir. Je mourrai sans me défendre. Le clan y gagnera au moins 3 existences. Je ne puis faire plus. Mais si vous consentez, je puis vous épargner la honte de tuer un frère auquel on ne saurait reprocher aucun tort. Un frère qui fut réclamé, acheté, pour être admis dans le clan suivant la loi de la jungle. « C'est un homme, un homme, un homme !» gronda l'assemblée. Et la plupart des loups firent mine de se grouper autour de Shere Khan, dont la queue se mit à fouiller les flancs. Alors Mowgli se leva, le pot de braise dans les mains. Puis il s'étira et bâilla au nez du conseil. Mais il était plein de rage et de chagrin, car en loup qu'ils étaient, ils ne lui avaient jamais dit combien ils le haïssaient.
« Écoutez !»
dit-il.
« Il n'y a pas besoin de crier aïe comme des chiens. Vous m'avez dit trop souvent cette nuit que je suis un homme. Et cependant, je serai resté un loup avec vous jusqu'à la fin de ma vie. Je sens la vérité de vos paroles. Aussi, je ne vous appelle plus mes frères, mais Sag, chien, comme vous appellerez un homme. Ce que vous ferez, ce que vous ne ferez pas, ce n'est pas à vous de le dire. » C'est moi que cela regarde, et afin que nous puissions tirer la chose au clair, moi, l'homme, j'ai apporté ici un peu de la fleur rouge que vous craignez. »
Il jeta le pot sur le sol, et quelques charbons rouges allumèrent une touffe de mousse sèche qui flamba, tandis que tout le conseil reculait de terreur devant les seaux de la flamme. Mowgli enfonça la branche morte dans le feu jusqu'à ce qu'il vit des brindilles se tordre et crépiter. Puis il la fit tournoyer au-dessus de sa tête, au milieu des loups qui rampaient de terreur.
« Bien !»
dit Mowgli en promenant avec lenteur un regard circulaire.
« Je vous quitte pour retourner à mes pareils. Si vraiment ils sont mes pareils. La jungle m'est fermée. Je dois oublier votre langue et votre compagnie. Mais je serai plus miséricordieux que vous, parce que j'ai été votre frère en tout, sauf par le sang. » Je promets, lorsque je serai un homme parmi les hommes, de ne pas vous trahir auprès d'eux comme vous m'avez trahi.
Il donna un coup de pied dans le feu et les étincelles volèrent. Puis il marcha à grands pas vers l'endroit où Shere Khan couché clignait de l'œil stupidement aux flammes et le prit par la touffe de poils sous le menton. Bagheera suivait en cas d'accident.
« Debout !»
cria Mowgli.
« Debout quand un homme parle, ou je mets le feu à ta robe !»
Les oreilles de Shere Khan s'aplatirent sur sa tête et il ferma les yeux, car la branche flamboyante était tout près de lui.
« Cet égorgeur de bétail a dit qu'il me tuerait en plein conseil, parce qu'il ne m'avait pas tué quand j'étais petit. Remue seulement une moustache, Shere Khan, et je t'enfonce la fleur rouge dans la gorge !»
Il frappa Shere Khan de sa branche sur la tête, tandis que le tigre geignait et pleurnichait en une agonie d'épouvante. Le feu brûlait furieusement au bout de la branche et Mowgli frappait de droite et de gauche autour du cercle et les loups s'enfuyaient en hurlant sous les étincelles qui brûlaient leur fourrure. À la fin, il ne resta plus que le vieil Akela, Bagheera et peut-être 10 loups qui avaient pris le parti de Mowgli. Alors Mowgli commença de sentir quelque chose de douloureux au fond de lui-même. Quelque chose qu'il ne se rappelait pas avoir jamais senti jusqu'à ce jour. Il reprit haleine et sanglota. Et les larmes coulèrent sur son visage.
Qu'est-ce que c'est ? Je n'ai pas envie de quitter la jungle. Et je ne sais pas ce que j'ai. Vais-je mourir, Bagheera ?
Non, petit frère. Ce ne sont que des larmes. Comme il arrive aux hommes, dit Bagheera. Maintenant, je vois que tu es un homme et non plus un petit homme. Oui, la jungle t'est bien fermée désormais. Laisse-les couler, Mowgli. Ce sont seulement des larmes. Alors Mowgli s'assit et pleura, comme si son cœur allait se briser. Il n'avait jamais pleuré auparavant de toute sa vie.
À présent,
dit-il,
je vais aller vers les hommes. Mais d'abord, il faut que je dise adieu à ma mère.
Et il se rendit à la caverne où elle habitait avec Père Loup. Et il pleura dans sa fourrure, tandis que les autres petits hurlaient misérablement.
« Vous ne m'oublierez pas !»
dit Mowgli.
« Je reviendrai sûrement. Dites-leur dans la jungle de ne jamais m'oublier. »
L'aurore commençait à poindre quand Mowgli descendit la colline tout seul, en route vers ces êtres mystérieux qu'on appelle les hommes.
La vie, c'est la vie, il faut se la vivre au hasard des jours et au fil des nuits. Faut se l'emmener jusqu'à l'autre rive, faut se l'espérer, son coin paradis. Quand ça va, ça va, y a pas de problème. Quand ça ne va pas, faut se faire une raison. La vie, c'est la vie, avec ses je t'aime, avec ses chagrins et ses illusions. Ça n'est pas toujours comme on dit tout rose, la vie. Ça n'est pas non plus comme on dit tout gris. Mais c'est un mélange de gris et de rose, la vie. Mais c'est un collier de rosé et de gris. Tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut faire, la plupart du temps, ça ne sert à rien. Tout le monde s'en fout, vaut mieux se la faire. Aujourd'hui qui pleure chantera demain. La vie c'est la vie, il faut se la vivre. Content pas content, faut s'en arranger. Faut se l'emmener tant qu'on peut la suivre. La vie ça se vit jusqu'à en creux. Il faut se la vivre.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Ça peut pas faire de mal.
Quelle bonne surprise, monsieur Bumble. Il ne faut pas vous offenser de ce que je vais vous dire, mais après cette longue course, vous devez être fatigué. Voulez-vous accepter une petite goutte, monsieur Bumble?
Oh, je ne bois pas, je ne bois pas.
Rien qu'une seule larme avec de l'eau froide et un morceau de sucre.
Qu'est-ce que c'est?
Soyez sans crainte, monsieur Bumble. C'est du gin.
Mais parlons un peu de vos affaires. Le garçon qu'on a baptisé Olivier Twist a 9 ans aujourd'hui.
C'est l'enfant le plus récalcitrant que je connaisse.
Ce n'est pas étonnant. On n'est jamais arrivé à découvrir ses parents.
D'où lui vient donc le nom qu'il porte?
Je l'ai inventé.
Vous, monsieur Bumble?
Oui, madame Cornet. Je nomme les gosses par ordre alphabétique et le dernier commençait par un S. Je l'avais appelé Swapple. Celui-ci était donc un thé. Twist, c'était tout ça.
Vous auriez fait un romancier de talent.
Oui, c'est bien possible, Madame Cormet. Très possible, ma foi, oui.
Nous sommes au début de l'époque victorienne. Voici un extrait d'un roman qui a marqué des générations d'enfants, le célèbre Oliver Twist de Charles Dickens, paru en 1837. Oliver est né orphelin. Recueilli par la paroisse du village, il est ensuite envoyé au dépôt de mendicité dirigé par Mr. Bumble. Battu et mal nourri, il se rebelle un jour et demande une ration supplémentaire. Cela lui coûte cher. Il est envoyé au cachot puis récupéré par un croque-mort, Mr. Sowerberry, qui le fait dormir au milieu des cercueils. Tout se passe pour le mieux jusqu'au jour où un enfant se moque de sa mère morte. Une bataille s'engage. Oliver est puni. Le voici au chapitre 7. Oliver Twist fut enfermé dans l'arrière-cuisine en compagnie de la pompe et d'un morceau de pain sec. Abandonné à lui-même dans la boutique morne et silencieuse, il se livra aux réflexions que le traitement qu'il venait d'éprouver devait éveiller dans son cœur d'enfant. Il avait écouté le sarcasme avec dédain. Il avait supporté les coups sans pousser un cri, car il sentait se développer dans son cœur un sentiment d'orgueil qui l'eût empêché de proférer une plainte, quand même on l'eût brûlé vif. Mais maintenant que personne ne pouvait le voir ou l'entendre, il tomba à genoux sur le plancher, et cachant son visage dans ses mains, il versa de telles larmes qu'il faut souhaiter pour l'honneur de notre nature que Dieu veuille en faire rarement répandre de semblables à des enfants de cet âge. Oliver resta longtemps immobile dans cette position. La chandelle allait finir de brûler quand il se leva. Il regarda prudemment autour de lui, écouta attentivement, puis il tira doucement les verrous de la porte d'entrée et regarda dans la rue. La nuit était froide et sombre. Les étoiles paraissaient à l'enfant plus éloignées de la terre qu'il ne les avait jamais vues. Il ne faisait pas de vent. L'ombre que les arbres projetaient sur le sol était complètement immobile et avait quelque chose de sinistre et de sépulcral. Il referma doucement la porte et, profitant des dernières lueurs de la chandelle pour réunir dans un mouchoir le peu d'effets qu'il possédait, il s'assit sur un banc et attendit les premières clartés du matin. Dès qu'un rayon de lumière pénétra à travers les fentes des volets, Oliver se leva et tira de nouveau les verrous. Il jeta autour de lui un regard timide, hésita quelques instants, puis tira la porte derrière lui. Il était dans la rue. Il regarda à droite et à gauche, incertain du côté par où il fuirait. Il se souvint d'avoir vu les chariots quand il sortait de la ville gravir péniblement la colline. Il prit la même direction et arriva à un petit sentier à travers champs qu'il savait rejoindre bientôt la grande route. Il s'y engagea et se mit à marcher rapidement. Il se rappela très bien avoir déjà suivi ce sentier lorsqu'il trottait derrière Mr. Bumble pour venir à la ferme au dépôt de mendicité. Le chemin le conduisit tout droit à la chaumière. Son cœur battit violemment à ce souvenir et il était presque résolu à revenir sur ses pas. Mais il avait déjà fait bien du chemin et un détour lui ferait perdre beaucoup de temps. D'ailleurs, il était si matin qu'il avait peu à craindre d'être vu. Il continua à avancer. Il arriva à la ferme. Il n'y avait pas d'apparence que ses petits habitants fussent debout à cette heure matinale. Oliver s'arrêta et jeta à la dérobée un coup d'œil dans le jardin. Un enfant arrachait les mauvaises herbes d'un carré dans un moment où il leva son visage pâle. Oliver reconnut en lui un de ses anciens compagnons. Oliver se sentit joyeux de le revoir avant de s'éloigner. Quoique plus jeune que lui, cet enfant avait été son petit ami, son compagnon de jeu. Ils avaient été tant de fois affamés, battus, enfermés ensemble.
Chut, Dick !
Dit Oliver, comme l'enfant courait à la porte et passait ses petits bras à travers les barreaux pour lui faire accueil.
Est-ce qu'on est levé ?
Non, il n'y a que moi, répondit l'enfant.
Il ne faut pas dire que tu m'as vu, Dick,
reprit Oliver.
Je me sauve. On me bat et on me maltraite, Dick. Je vais chercher fortune si loin que je ne sais où. Comme tu es pâle.
J'ai entendu le médecin dire que j'allais mourir, répondit l'enfant avec un léger sourire. Je suis content de te voir, mon cher ami. Mais ne t'arrête pas, ne t'arrête pas.
Oui, oui. Mais je veux te dire au revoir,
reprit Oliver.
Je te reverrai, Dick. J'en suis sûre. Et alors, tu seras bien portant et heureux.
Je serai heureux, dit l'enfant, quand je serai mort, et pas avant. Le médecin a raison, Oliver, car je rêve souvent du ciel et des anges et de douces figures que je vois jamais quand je suis éveillé. Embrasse-moi, ajouta l'enfant en grimpant sur la petite porte et en croisant ses petits bras autour du cou d'Oliver. Adieu, mon cher ami, que Dieu te bénisse. Cette bénédiction sortait de la bouche d'un enfant, mais c'était la première qu'Oliver eût jamais entendu appeler sur sa tête. Au milieu des épreuves, des souffrances, des vicissitudes de la vie, il ne l'oublia jamais.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission réalisée par Xavier Pestudia avec Jean-Richard Dufour à la technique a été préparée par Estelle Gap, Laurel Maki et Valérie Bourg. Un grand merci Eve d'être venue ce soir.
De rien, merci à vous.
À la semaine prochaine, bonne soirée.